Ils sont bons, nos jeunes, hein? J'ai le plaisir de vous apporter le message aujourd'hui. Et avant de plonger dans le texte, j'aimerais juste vous poser une série de questions. Comment est-ce que tu réagirais si un jour Dieu te parle et t'appelle pour une mission? Une mission, j'entends, ça peut être quelque chose de temporaire, genre peut-être prier pour un malade, parler avec un collègue de travail, mais ça peut être aussi une mission comme on l'entend, peut-être changer de vie, changer de travail, partir à l'étranger. Et ces questions-là sont tout à fait légitimes. Et ma question, c'est est-ce qu'on saurait reconnaître que c'est Dieu qui nous parle? Et est-ce qu'on obéirait? Est-ce qu'on obéirait lorsque Dieu nous demande de faire ça ou de faire ça? Et ces questions, c'est exactement les questions que s'est posé Gédéon. Et on va plonger dans le texte avec Gédéon et comment est-ce que Dieu va l'appeler dans une mission qu'il va lui donner. Et on va voir ensemble que c'est pas toujours évident de s'engager pour Dieu, d'obéir. Ça demande beaucoup de courage, mais aussi de faire un pas de foi. Et c'est ce pas de foi qu'on va avoir ensemble avec Gédéon. Et j'invite Julie, qui va nous faire l'honneur de lire le texte, qui est dans Juges 6, 11 à 24.
L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Yor. Un homme du clan d'Abiez. Gédéon, fils de Yor, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » « Je t'en prie, Seigneur, » répondit Gédéon. « Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Alors le Seigneur déclara, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon reprit, « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur qui me parle. Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Gédéon alla donc préparer un chevreau, ainsi que des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, « Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main, et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et le pain. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et le pain, puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur, et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construit un autel pour le Seigneur et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abézer.
Merci Julie. Avant de décortiquer le texte, j'aimerais juste apporter quelques éléments de contexte. Donc, on est dans une période en Israël qui est un petit peu instable. On a en fait le peuple d'Israël qui est dans l'idolâtrie. Et on a les éléments de contexte que je vous donne là, c'est vraiment juste les éléments qui sont avant le passage que Julie vient de lire. Et dans Juges 6, versets 1 à 2, il est dit, Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot Madian, ça a un mot hébreu qui veut dire querelle, jugement, dispute. C'est comme s'il y a une espèce de séparation entre Dieu et le peuple d'Israël qui est dans l'idolâtrie, en fait. Et on se rend compte, en fait, que cette situation dans laquelle se trouve Israël, en fait, elle est provoquée par la propre faute des Israélites qui sont tombés dans l'idolâtrie. C'est la cause de leur malheur, en fait. Et donc, on apprend qu'il y a, donc, au niveau du contexte, qu'il y a une oppression, une domination de la part des Madianites qui ravage les récoltes pendant 7 ans. Et quelques infos, j'ai pour regarder qui étaient en fait les Madianites. Donc les Madianites, c'était un peuple nomade qui se déplaçait avec beaucoup de chameaux. Et ils avaient, dans le texte, il est dit que en fait, ce peuple est comparé comme un essaim de sauterelles qui vient s'emparer des récoltes et des cultures et qui repart précipitamment avec leurs chameaux, donc laissant du coup les Israélites sans vivre, sans nourriture, etc. Et ils sont vraiment, Dieu les a vraiment laissés là en fait pour entre guillemets prendre la place, vu que Israël était du coup révolté contre Dieu, ou en tout cas était contre Dieu et dans l'idolâtrie. Et il est dit au verset 5, en effet, donc les Madianites, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Et la conséquence, c'est qu'Israël est comme réfugié dans son propre pays. On se rappelle avec la conquête du pays de Canaan, avec Josué, ils ont pris possession des terres qui leur étaient données. Et là, en fait, on a comme un espèce de retour en arrière où ils sont comme réfugiés dans leur propre pays que Dieu leur a donné à cause de leur péché et donc l'arrivée des Madianites. Et on voit en fait à travers cette forme de, on va dire, de refuge où les Israélites sont vraiment, ils se cachent dans les cavernes, dans les grottes, c'est comme s'il n'y avait plus de liberté, il n'y avait plus d'unité en fait entre les Israélites. Chacun essaye un peu de survivre comme il peut en essayant de trouver un peu de nourriture et de survivre dans cette situation. Donc il y a une forme de misère en Israël et au verset 4, toujours donc, du chapitre 6, il est dit... Donc les Madianites campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc il y a comme une forme de peur générale. Et puis au verset 11 du passage, on a Gédéon qui est en train en fait de battre le blé dans un pressoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce pressoir, c'est comme une espèce de cuve creusée dans le sol. Et c'était en fait une forme de battage pour... obtenir des petites quantités de nourriture, donc ça montre vraiment la situation dans laquelle ils étaient, où il y avait très peu de vivres et ils étaient en situation de survie. Et puis on apprend donc juste avant le passage que Julie vient de lire que Israël a crié à l'Éternel par rapport à cette situation. Dieu est intervenu en envoyant un prophète, mais malheureusement Israël n'a pas écouté ce prophète, ne s'est pas remis en question, n'a pas changé d'attitude et du coup, ils n'ont pas été délivrés et ils sont toujours dans cette forme d'oppression de la part des Madianites. Et ce qui est hyper intéressant dans ce texte, c'est vraiment ce dialogue qu'il y a entre d'un côté l'ange du Seigneur qui vient sous la forme d'un pèlerin et Gédéon, qui est en train de battre le blé et qui se fait interpeller par cet ange. Et on va regarder ensemble à chaque fois ce que dit l'ange et ce que dit Gédéon. Et ce qu'on va voir en fait ensemble, c'est qu'il y a comme une forme de progression où petit à petit, Gédéon va commencer à croire, va commencer à utiliser sa foi, alors qu'au début, il n'est pas du tout dans cette situation. Je lis au verset 12, et c'est aussi affiché, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc là, on voit qu'il y a un ange qui vient directement rejoindre Gédéon et qui l'appelle et qui lui dit « Viens, vas-y, tu es un vaillant héros. » Et ce qui est intéressant là, c'est l'attitude de Gédéon. On voit qu'il est plus préoccupé par sa propre survie, sa propre situation à battre le blé dans la cuve que de vraiment écouter ce que dit l'ange. Et il y a comme un espèce de décalage entre, d'un côté, l'ange qui vient et qui lui dit « Mets-toi en action, vas-y Gédéon, tu es un vaillant héros. » Et puis lui, Gédéon, qui est comme prostré dans sa cuve, en train de battre le blé, et se dépêcher de le faire pour éviter que les Madianites arrivent et du coup prennent la nourriture. Donc il y a comme un espèce d'appel à se mettre en action, un appel à la combativité de la part de l'ange. Et puis la réponse de Gédéon au verset 13 qui dit, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Donc on voit là Gédéon qui est comme dans une forme de complainte, de se plaindre de la situation. Et on voit aussi qu'il est comme empêtré dans un mensonge, parce qu'on l'a vu avant au niveau du contexte, que c'est à cause du péché d'Israël qu'il y a eu cette oppression de la part de Madian. Et pour Gédéon, c'est comme s'il dit, mais en fait... on a toujours été juste, et en fait, pourquoi est-ce que Dieu nous abandonne? Pourquoi est-ce qu'on vit cette situation-là? Et on voit que Gédéon, il est tellement pris dans sa situation qu'il ne se rend même pas compte, en fait, de son propre péché, du péché des Israélites, et le fait que ben, cette situation, elle n'est pas provoquée par hasard, parce qu'ils sont vraiment dans l'idolâtrie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au niveau des temps. Si vous regardez dans ce que dit l'ange de l'Éternel, il dit... L'Éternel est avec toi. Donc c'est du présent. C'est comme s'il y a eu un passé et maintenant il y a un moment donné où c'est dès maintenant il faut que tu te mettes en action. Et on va voir que les tons vont changer au fur et à mesure du dialogue entre l'ange et Gédéon. Et puis finalement on voit que Gédéon il est tellement embourbé dans ses plaintes, dans son péché, dans son mensonge, qu'il va même pas en fait se réjouir à l'idée que le Seigneur veut l'utiliser en fait pour délivrer le peuple. Il devrait se réjouir en fait que ben il y a un espoir que la situation va changer et que Dieu va intervenir. Et on voit qu'il est tellement dans ses problèmes qu'il va même pas réagir par rapport à ça. Et puis par la suite au verset 14, on a l'ange de l'Éternel qui va pas chercher à se justifier ou à répondre aux plaintes de Gédéon. Il va dire. Donc c'est écrit au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Donc on voit en fait qu'il ne va pas forcément répondre en se justifiant en disant « Mais non, c'est toi qui as tort, c'est toi qui es dans le péché, etc. » Il va simplement répéter la mission à laquelle il appelle Gédéon. Et puis, il va lui donner un peu plus d'éléments concrets par rapport à la mission à laquelle il l'appelle. Donc, c'est du coup d'aller combattre Madian et de délivrer le peuple israélite. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus dans le présent, on est dans l'impératif. C'est comme si maintenant, allez, Gédéon, il faut te réveiller, maintenant c'est un ordre que je te donne, vas-y, il y a une mission que je te donne, vas-y, il faut aller combattre. Et il y a aussi cette question... N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Comme si l'ange essaye de se révéler en fait à Gédéon, de montrer, mais en fait c'est pas un simple visiteur, c'est pas un simple pèlerin qui vient parler à Gédéon, mais en fait c'est Dieu lui-même. Et Gédéon, on va voir qu'il n'est pas encore à reconnaître que c'est quelque chose de divin, que c'est vraiment Dieu qui lui parle. Et sa réponse, donc au verset 15, Gédéon lui dit. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Donc on voit que là, Gédéon, il n'est plus dans la complainte, il est plus maintenant dans la peur à essayer un peu de trouver des excuses pour ne pas aller, pour ne pas obéir à la mission à laquelle l'ange l'appelle. Et puis, il va un peu se dévaloriser en disant voilà, je suis le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. Et puis, il va aussi un peu répéter, alors que la réponse, elle est dans la question, mais il va répéter en disant, mais avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël ? Alors que l'ange, juste avant, il lui dit, va avec la force que tu as. C'est comme s'il remet un peu en question, en se disant, mais en fait, c'est avec quelle force, avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël ? Et en fait, la réponse, elle est déjà dans la question, en fait. Et c'est comme si il regarde qu'à ses propres forces, qu'à sa perspective humaine, sans penser en fait que en fait, c'est Dieu qui va l'équiper, c'est Dieu qui va lui donner la force de pouvoir se mettre en combat et d'aller se mettre en action. Et puis les excuses qu'il trouve, le fait qu'il dit qu'il est le plus faible dans sa famille par rapport à la tribu, c'est tout à fait des choses qui sont légitimes. Et je vais vous montrer une carte. Voilà. Donc c'est... On voit en fait, si vous plissez bien les yeux, Manassé, en fait, c'était une tribu qui était particulière parce que, au niveau territorial, il y avait en fait comme géographiquement une séparation entre d'un côté une partie qui était située à l'est du Jourdain et une autre partie qui était située à l'ouest. Et on peut pas nier en fait qu'il y avait un peu une faiblesse militaire, on va dire, ou stratégico-militaire par rapport à cette tribu. Et ce qu'il dit Gédéon, c'est tout à fait exact, qu'en fait, qu'il n'est pas forcément issu de la tribu d'Israël qui est la plus forte, la plus puissante, ou même au niveau de sa famille, il n'est pas forcément la meilleure personne qui soit, mais Dieu l'a choisi. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne va pas remettre en question les excuses légitimes qu'il a, mais simplement qu'il veut l'utiliser, et en fait, il va dépasser ses circonstances humaines. Et c'est vrai que des fois, nous, dans nos vies, on est tellement... pris dans nos situations qu'on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que Dieu, tu m'as choisi ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Mais en fait, des fois, il faut juste se dire, mais en fait, Dieu veut dépasser ça, en fait. Dieu veut dépasser notre propre situation pour nous utiliser. Et c'est ce qui va, c'est ce qu'on va voir aussi dans la continuité aussi du passage. Alors, au verset 16... On a l'Éternel qui répond, donc l'ange de l'Éternel qui répond, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Donc là, on voit au niveau des temps qu'on avait du présent au début, après on avait de l'impératif et maintenant on a du futur. Et ce qui est intéressant là, c'est vraiment le fait que l'ange de l'Éternel va non seulement, il l'appelle pour la mission, mais il lui donne déjà en fait, il lui annonce déjà en fait le résultat de la mission. Que la mission aura du succès, que ce sera la réussite et que Israël va réussir à battre les Madianites. Mais Gédéon, il n'est pas tout à fait sûr. On voit qu'il est, il y a un début de quelque chose, mais il n'est pas tout à fait sûr. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'appelle à faire ça ? Et en fait, il va... donc on va le voir au verset 17 et 18, qui va demander en fait des preuves. Il va demander un signe que c'est bien Dieu qui lui parle. Et je trouve que des fois, c'est tellement aussi, on s'identifie tellement des fois à Gédéon dans nos vies, où on attend en fait que Dieu il se révèle vraiment à nous, ou bien on veut des preuves, on veut vraiment une confirmation que c'est vraiment Dieu qui nous parle, pour ensuite se mettre en action. Et au verset donc 17 et 18, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et là, c'est le premier en fait, moment dans le texte où Gédéon va vraiment se mettre en action. On voit qu'il y a un début de quelque chose, qu'il a peut-être compris que le personnage qui le visite, ce n'est pas un simple visiteur, ce n'est pas un simple pèlerin. Mais il ne reconnaît pas encore que c'est vraiment Dieu, mais il y a comme un début de quelque chose, qu'il reconnaît qu'il y a peut-être quelque chose de divin par rapport à cet ange. Et puis, il dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » Donc, c'est comme s'il conditionne son accord de partir en mission à, au fait, je veux vraiment avoir une preuve que c'est toi qui me parles. Et ensuite, il va se mettre en action et du coup, il va aller préparer cette offrande. Et quand j'ai préparé ce texte, je me suis beaucoup interrogé sur « Mais c'est quoi cette offrande que Gédéon il veut préparer ? Est-ce que c'est un repas que Gédéon il veut préparer pour son hôte, en conformité avec un peu la loi de l'hospitalité, d'être accueillant avec la personne qui vient vers lui ? Ou est-ce que c'est vraiment une offrande ou un sacrifice que Gédéon il veut faire ? Et en fait, le terme hébreu pour offrande, c'est le terme « minra ». Et en fait, ça fait référence à tout ce processus de sacrifice qui était courant à l'époque. Et en regardant en fait dans Lévitique 2 et 3, il y avait en fait deux types de sacrifices qui étaient, ou deux types d'offrandes qui étaient faits. La première, c'était les offrandes végétales, qui étaient à base de fleurs de farine, d'huile et d'encens. Ils étaient brûlés et puis les restes étaient ensuite mangés. Et puis ça, c'était une offrande qu'on appelait une offrande non sanglante. Et il y avait ensuite les offrandes sanglantes, où là, c'était un sacrifice de communion à base de bétail. Donc ça pouvait être une chèvre, une brebis, un bœuf, qui était complètement brûlé. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, Gédéon, il va préparer quelque chose, il va se mettre en action, mais ce qu'il prépare, en fait, finalement, c'est pas vraiment dans les... ça ne correspond pas vraiment à une catégorie d'offrande. Ça ne correspond pas vraiment aux instructions qui sont données, en fait, dans Lévitique 2 et 3. Et on voit, en fait, donc, que Gédéon va utiliser un chevreau, des pains sans levain et 22 litres de farine. 22 litres de farine, ça correspond environ à 13 kilos de farine. Donc on voit que c'est quand même des quantités qui sont très importantes. Et ce qui est intéressant là, c'est que Gédéon, ben, on voit que ça dépasse clairement le cadre d'un simple repas, parce que 13 kilos de farine pour une personne, à moins que... Voilà, moi, je mange beaucoup, mais est-ce que vraiment une personne va manger 13 kilos de farine et un chevreau en entier? Non. Donc il y a vraiment une volonté de la part de Gédéon de faire quelque chose de plus. Et on voit qu'il ne va vraiment pas lésiner sur la quantité. Et alors qu'on est vraiment dans un temps de disette, où il y avait très peu de nourriture, où il y avait très peu de vivres à disposition, on voit vraiment qu'il y a un vrai changement d'attitude de la part de Gédéon. Rappelez-vous, au début du texte, il était en train de battre du blé dans un pressoir pour des petites quantités, un peu prostré, caché, réfugié pour vite mettre à l'abri le blé des Madianites. Et là, il se met en action, il commence à préparer, à cuisiner, à sortir le chevreau, les pains sans levain, etc. Donc on voit un vrai changement d'attitude de la part de Gédéon. Et puis, ça montre qu'il y a comme quelque chose qu'il commence à comprendre au niveau de sa foi. Et au verset 20, voilà. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande, donc, Il prépare l'offrande, il l'amène vers l'ange, et l'ange lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. Et directement après, c'est ce que fit Gédéon. Et là, j'étais vraiment interpellé par l'action de Gédéon, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il obéit à l'ange? Il aurait très bien pu remettre en question cet ordre en disant, mais je t'ai préparé un peu une offrande, et puis je te demande un signe, puis... Pourquoi est-ce que tu me demandes de poser sur ce rocher? À quoi ça sert? De remettre en question l'ordre comme il l'a fait avant, où il était, on voit que Gédéon, il n'était pas encore convaincu qu'il était vraiment la bonne personne pour partir en mission. Et là, on voit en fait qu'il n'y a même pas de tergiversion. Il va directement agir, prendre ce qu'il a préparé et le poser sur ce rocher. Et c'est vraiment comme un espèce d'acte d'obéissance, un pas de foi qu'il fait en disant, il ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais il obéit en fait à ce que l'ange lui demande de faire. Et puis... au verset 21 à 23, on va voir. Voilà. Il est dit, « L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main, et on toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et là, en fait, on voit que par l'acte d'obéissance, par ce mini-acte de foi qui peut paraître hyper anodin, c'est là, en fait, où Dieu va se révéler à Gédéon avec le feu. Et en fait, on peut se dire, mais en fait, si Gédéon n'avait pas fait ce pas de foi, peut-être qu'il n'aurait jamais obtenu le signe demandé, la confirmation que c'était vraiment Dieu qui l'appelait à aller combattre les Madianites. Et peut-être qu'on n'aurait même pas ensuite la suite de l'histoire qu'on connaît avec la délivrance du peuple d'Israël et tout ce qu'il va ensuite faire au niveau militaire. Et ce qu'on peut relever aussi dans cette partie de texte, c'est le fait que Dieu va accepter
l'offrande de Gédéon, alors que, comme on l'a vu, elle était complètement imparfaite et elle ne correspondait pas du tout à une catégorie précise d'offrande qu'il fallait faire comme dans Lévitique. Et on voit vraiment que Dieu, il a utilisé ce que Gédéon a préparé pour se révéler à lui. Et on peut penser que Gédéon, ben, il a vraiment fait avec les moyens qu'il avait à sa disposition, vu qu'il était dans une situation de survie. Mais Dieu, c'est comme si Dieu avait compris son cœur, compris la démarche qu'il avait, et ensuite s'est révélé à lui. Et un élément qui manquait en fait à son offrande, c'était le fait que le chevreau qu'il a préparé n'était pas rôti en fait. Il n'y avait pas ce côté rôti comme demandé dans Lévitique. Et en fait, cet ingrédient qui manquait, donc c'est le feu qui va descendre et qui va ensuite brûler l'offrande de Gédéon, comme si elle était acceptée ensuite. Et on voit vraiment ce côté que Dieu veut aussi collaborer avec Gédéon quand il lui disait mais va avec la force que tu as, mais en fait c'est pas simplement Gédéon tout seul avec sa force humaine, mais c'est vraiment je suis avec toi et ensemble on va gagner, on va combattre les Madianites et on va délivrer le peuple d'Israël. Le feu, ça a aussi beaucoup de symbolique, alors je vais pas m'étendre ici par rapport au feu, mais il y a vraiment ce côté aussi le feu qui purifie. Et on se rappelle que Gédéon était vraiment dans cette situation avec le peuple d'Israël, dans le péché, dans le mensonge. Et il y a comme si Dieu veut commencer à travers ce feu à purifier le cœur de Gédéon. Et c'est comme un début de processus de purification. On connaît ensuite l'histoire de Gédéon, qu'il y aura encore des choses qu'il va devoir faire. Par la suite, il va devoir... C'est pas noté dans le texte, mais par la suite, il va devoir détruire l'autel de Baal dans sa famille. Il y aura encore un moment de doute où il va, avec la toison, demander que ce soit un moment humide et mouillé, etc. Comme si, l'histoire qu'on connaît. Mais c'est comme s'il y a un début de quelque chose et que Gédéon va ensuite le prépare au combat, le prépare à la mission à laquelle il l'appelle. Et en conclusion, ce qu'on voit vraiment en fait dans ce texte, c'est qu'au contact de l'ange, Gédéon va vraiment commencer à changer au niveau de son attitude. Au contraire de l'ange, on dit toujours que Dieu il est le même, Dieu il est constant, Dieu il est toujours pareil. Là, on a vraiment un exemple parce que l'ange, il va jamais répondre ou remettre en question la mission. Il continue de motiver, d'encourager Gédéon à la mission à laquelle il l'appelle. Et Gédéon qui va vraiment progressivement commencer à croire à ce qu'on lui dit et sa foi va commencer vraiment à naître. Et c'est pour ça que le titre du message est aussi une foi naissante, parce que Dieu va vraiment faire naître cette foi en Gédéon et il va ensuite faire cet acte d'obéissance et ça va nourrir vraiment un début de foi. Et puis, donc c'est un peu ce que j'ai expliqué. Donc, Gédéon va se mettre en action car il sent quelque chose de divin chez son visiteur et il va obéir à l'ange de l'Éternel et c'est ça qui va ensuite tout changer parce qu'ensuite il aura la preuve et il va commencer ensuite à se mettre en action. Et le pas de foi qu'il va faire, ça va lui permettre d'obtenir cette confirmation, cette validation de la part de l'Éternel et en fait d'entrer dans le projet que Dieu avait prévu pour sa vie. Et c'est vrai que des fois nous dans nos vies on est tellement, comme je dis, embourbés dans nos problèmes, des fois dans des mensonges, dans des choses qui nous empêchent en fait d'avancer avec Dieu. Et je crois vraiment en fait que Dieu veut nous libérer de ça. Dieu va libérer Gédéon et Dieu veut vraiment nous libérer de ces choses. Et il veut vraiment affermir notre foi, nous faire vivre peut-être des circonstances qu'on ne comprend pas. Mais Dieu va vraiment utiliser ça ensuite pour nous libérer et nous faire ensuite aller de victoire en victoire. Et je crois vraiment qu'on peut tous s'identifier à Gédéon parce qu'on a tous des situations peut-être difficiles qu'on vit au quotidien. Mais je crois vraiment qu'il y a vraiment cet acte de foi à faire, cet acte d'obéissance, des fois à simplement répondre à ce qu'il nous dit, même si on ne comprend pas, même si c'est bizarre, même si on a l'impression que ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui fait la différence, parce qu'ensuite Dieu va progressivement nous amener en action et nous mettre en mouvement par rapport à la mission à laquelle il nous appelle. Et avant de vous poser peut-être plus des questions de réflexion par rapport à ce que je vous partage là, je vais passer la parole à Julie qui va nous apporter un peu un témoignage par rapport à cette idée de se mettre en action et d'obéir à Dieu. Voilà.
Oui, du coup, j'ai
On a préparé ce temps avec Baptiste et il m'a proposé de témoigner. Et je réfléchissais à ce que je voulais vous partager. Et au début, je pensais trouver un événement, un peu comme Gédéon, qui se passe en une journée, en mode un témoignage. Et en fait, en lisant ce passage, en réfléchissant à la vie que Gédéon avait, je me suis rendu compte qu'en fait, je vis ce passage durant tous les derniers mois que j'ai vécu. Et que en fait, j'ai plein d'étapes dans ma vie de ces derniers mois en fait, qui ressemblent aux étapes que Baptiste a parlé. Donc en fait, c'est de ça que je vais témoigner maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fini un bachelor en animation à la fin de l'été passé. J'ai choisi de faire des études en art parce que j'ai eu une révélation que Dieu il était aussi créateur et que ça, c'était acceptable en fait de aussi vivre de ça et de faire de l'art et que ben c'est l'artiste original et que ben lui il a peint ben tous les paysages et quand ben, par exemple je me retrouve face à un coucher de soleil ben je sais que c'est the artiste et que je pouvais suivre ses pas et que c'est grâce à lui que j'ai atterri dans ma petite école et que j'ai survécu à son cursus très intense et du coup dans cette idée moi, j'ai vraiment l'impression de suivre son appel et j'ai vraiment l'impression d'être sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Même si je sais que ben, du coup, l'industrie artistique, c'est pas le monde des bisounours et que ça fait pas très envie actuellement, mais je sais qu'il a un plan. Et du coup, je suis rentrée dans cette phase de chômage d'après-études et de recherche. En me disant que voilà, il avait un plan et que ça allait se passer et que ben on allait essayer de lui faire confiance. Donc l'année 2025 s'est terminée, ma situation elle a pas bougé. On est arrivé en 2026 et 2026 c'est toujours en fait une année qui me terrifie parce que c'est l'année de tous les inconnus. Parce que dans ma vie, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été aux études et là on me dit ok, ben maintenant on va aller travailler. C'est génial. Et que, en fait, ben, pour trouver du travail, ça veut dire potentiellement partir relativement très loin. Enfin, c'est que des changements qui sont pas faciles à envisager alors qu'on sait rien de comment ça va se passer. Et tout ça pour réaliser un métier dont j'ai l'impression que, en fait, je le découvre chaque jour. Et bah, j'ai jamais été tendre avec moi-même et ça s'est pas amélioré avec un bachelor artistique où on se compare par rapport aux autres, où on sait que c'est incertain. Et ouais, il y a beaucoup de fois où j'ai voulu tout abandonner, où je me suis plaint à Dieu, où je me suis dit que j'allais craquer et que bah, j'avais pas d'avenir là-dedans. Et où je me demandais bah, ce que je faisais et puis pourquoi je m'étais donné autant de mal durant ces 4 dernières années. Et en général, c'est juste des murmures, mais ces murmures, ils deviennent très puissants lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on est face à l'échec ou à bout. Et j'ai souvent bah, des mauvaises journées. Et je compatis envers ma famille qui doit me supporter. Et je pense que dans ces journées, si comme Gédéon, il y a l'ange de l'Éternel qui apparaissait devant moi et qui me dirait « Non, non, mais j'ai préparé une place dans un magnifique studio, t'inquiète pas, ça va bien se passer », moi aussi, je ne l'écouterais pas. Parce que c'est beaucoup plus simple d'aller sur LinkedIn, de voir les autres posts, de voir ceux qui réussissent, ceux qui font des choses 4 fois plus stylées, ceux qui sont encore aux études et qui ont déjà un meilleur niveau que moi, ou alors les offres d'emploi qui demandent minimum 2 ans d'expérience, alors que c'est une poste pour débutants. Et très vite, tu arrives à la réalisation que bah, j'ai aucune chance. Et je suis pas la plus jeune dans ma famille, mais j'ai la même logique que Gédéon, dans le sens que je suis juste une petite fille d'un tout petit pays, la Suisse, avec des toutes petites capacités, qui parle pas bien anglais, qui déteste les changements, qui recherche juste une toute petite place pour pouvoir travailler. Enfin, bref, ça peut continuer longtemps comme ça. Et du coup, j'arrive souvent à cette idée que ben, j'apporte rien pour contribuer au plan de Dieu. Et en fait, j'ai tellement été bénie en lisant ce texte avec la phrase qui dit « Va avec la force que tu as ». Parce que Dieu, il m'appelle, il vous appelle, et vraiment, bah, tout est dit dans cette phrase, quoi. C'est d'y aller avec la force qu'on a. Qu'on soit tout petit, qu'on soit très grand, enfin, il connaît ce qu'il a placé en nous, et c'est juste ça qu'il demande. Il ne demande pas que j'aie le niveau des autres sur LinkedIn. Et bah, on voit dans l'histoire de Gédéon, il n'a pas donné à Gédéon une force surhumaine juste parce qu'il devait aller combattre. Il a pris Gédéon tel qu'il est. Et c'est l'une des promesses que j'ai sur ma vie et que vous avez sur la vôtre. Et généralement, bah, je m'y accroche, sauf que parfois, ça ne suffit pas. Et Dieu, il le sait. Et comme pour Gédéon, il sait que parfois, il a besoin, enfin, on a besoin d'avoir des signes extérieurs. Donc, témoignage dans le témoignage. Il y avait un vendredi, j'étais vraiment de mauvaise humeur. Je me suis levée avec des idées noires, où j'étais en mode dépression, j'ai envie de me recoucher. Et le bémol, c'est que je devais aller voir des amis. Donc je ne pouvais pas rester dans ma chambre à déprimer, il fallait que je sorte. Sauf que j'avais aucune envie parce que je me suis dit, bah, ils vont me voir comme ça et ce n'est pas agréable d'être avec quelqu'un qui tire la gueule. Mais du coup, je me suis préparée et tout. Et je m'énervais, en fait, j'étais en colère contre le fait que ça n'allait pas bien. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de refuser cet état et de proclamer que non, je ne serai pas déprimée. Du coup, je suis allée prier. Je suis allée vers Dieu, je suis allée prier. D'abord en colère, évidemment. Et après, j'ai été inspirée, en fait, de proclamer que c'était Dieu qui ouvre et qui ferme les portes. Et j'ai prié pour cette idée. Et vraiment, dans le but de juste tout abandonner, toute la pression que je me mettais et tout, et de lui faire parfaitement confiance. Et de ne pas aller plus loin, de ne pas penser au fait « Ah, il faut que je trouve un travail et tout ça », mais juste, c'est lui qui ferme et qui ouvre les portes. Dans les deux sens. Si les portes ne sont pas ouvertes maintenant, c'est sa volonté. J'ai proclamé ça, et je suis allée voir mes amis. Et 2 heures après, j'ai reçu une notification de mon directeur, de mon ancien directeur du coup, qui me proposait de venir donner une semaine de cours à l'école. Et gloire à Dieu, parce que des fois on prie et on attend 6 mois avant d'une réponse, et là en 2 heures, j'avais une occasion d'aller travailler. Et c'est intéressant parce que du coup la porte était ouverte, mais c'est pas tout, après il faut la franchir la porte. Et du coup, bah, j'ai dû me mettre en action après, parce que en fait, d'avoir une occasion, après, j'aurais pu juste aller me recoucher en mode « Ah, ben c'est bon, hein, c'est bon, il y a des portes qui s'ouvrent, génial. » Non, bah, après, j'ai dû aller discuter avec le directeur, j'ai dû aller négocier mon salaire, j'ai dû aller faire de la paperasse, signer un contrat. Tout ça, c'était le début, c'était un peu excitant et tout. Puis après, j'ai dû préparer mon cours. Et là, le stress, parce que je me dis « J'ai aucune expérience. » J'ai jamais travaillé, donc est-ce que je suis légitime à aller enseigner des gens sur un métier que je n'ai jamais exercé? Et puis là, du coup, il y a de nouveau un combat. Mais du coup, c'est d'avoir la foi que si Dieu a ouvert cette porte, c'est que j'étais capable de le faire. Et du coup, je l'ai fait. Je suis allée enseigner mon métier à une classe de 20 élèves que j'ai accompagnée pendant une semaine et qu'après, j'ai dû corriger et noter 20 projets. J'ai résisté à l'envie de lancer des dés pour les noter. Et c'était une semaine vraiment intense, vraiment fatigante, et en même temps tellement riche d'expériences. Et une occasion de me mettre au service ben, de la volonté de Dieu. Parce que c'est pas ce que je prévois de devenir prof, mais que s'il m'envoie là, ben, j'ai pris. Et cette semaine, elle m'a vraiment reboostée dans cette période où je suis toujours dedans, parce qu'elle m'a montré que j'ai quelque chose à offrir, que je suis capable d'agir professionnellement, et ça m'a donné un boost de continuer et de finir ce que j'entreprenais. Oui, ça n'a pas enlevé à jamais tous les moments de doute. Et comme Baptiste a dit, après, dans l'histoire de Gédéon, il demande d'autres preuves avec la toison que Dieu est vraiment avec lui. Et je pense que, comme Gédéon, je vais en avoir besoin d'autres preuves jusqu'au jour où je trouve un travail, et même après, parce que le monde professionnel, c'est génial. Oui. Mais ça me met vraiment en confiance que, en fait, ma confiance, elle est en Dieu, ma foi, elle est en Dieu, et que, il ouvre et il ferme les portes au bon moment. Et depuis, pour finir globalement, j'ai fini de faire un portfolio, j'ai refait de la paperasse, et depuis un mois, j'ai commencé à faire des offres d'emploi. Donc, ça avance gentiment. Donc moi, je sais que là, il y a beaucoup de choses qui me bloquent intérieurement et personnellement, et aussi par rapport au fait que je me compare et que il y a d'autres personnes qui vont plus vite, il y a d'autres personnes qui vont plus lentement. Et il y a vraiment en fait ce pas de foi que Dieu m'appelle à refaire pendant toute cette année, c'est de lui faire complètement confiance. Comme je sais pas, enfin on sait jamais, mais 2026, je sais pas de quoi ça sera fait, c'est vraiment tout moment de remettre le fait que c'est Dieu qui s'occupe de mon avenir et qui prépare une place et qui va faire fructifier les dons qu'il a mis en moi. Voilà.
Merci beaucoup Julie. Donc comme c'est, on voit dans son témoignage, c'est vraiment, c'est pas qu'un seul combat, mais c'est des combats qu'on a dans nos vies. Et je crois qu'on peut vraiment tous, on est tous des Gédéons en fait, on a tous des combats, des défis. Et je crois vraiment que Dieu veut vraiment nous mettre en action. Et merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment comme de nous préparer pour ensuite qu'on puisse aller de victoire en victoire avec une foi qui est toujours plus grande. Et je crois que c'est vraiment ça que Dieu veut nous appeler à vivre à travers l'histoire de Gédéon. J'aimerais juste terminer avec quelques questions, un peu de réflexion par rapport à ce que je vous ai partagé. Finalement, quelle est mon attitude quand Dieu me parle ? Est-ce que je suis embourbé, pris dans mes propres problèmes, dans mes propres mensonges, et ça m'empêche de voir l'appel de Dieu pour quelque chose ? Donc ça peut être encore pour une mission ou quelque chose de beaucoup plus grand, mais vraiment, est-ce que ça m'empêche de voir l'appel que Dieu a pour ma vie ? Est-ce que je suis dans la peur ? Est-ce que je suis dans la plainte, dans la complainte ? Est-ce que je me trouve des excuses pour ne pas agir, qui sont peut-être légitimes ? Est-ce que j'ai besoin de preuves ou d'une validation pour avancer avec Dieu ? Et je pense que ce n'est pas mauvais en soi de demander à Dieu peut-être des fois des preuves, mais on a besoin de faire ce pas de foi. Et finalement, une question qu'on peut tous se poser pour nous-mêmes, quel est ce premier pas de foi que Dieu me demande de faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est... Ouais, vraiment, quel est ce premier pas de foi que Dieu me demande de faire aujourd'hui ? Et je vous laisse peut-être simplement 2-3 minutes pour réfléchir à ces questions et vous positionner par rapport à ce qu'on vous a partagé.